Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Frédéric Michel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les grandes voix que nous saluons tout de suite. Bonjour à Catherine Ney.
Bonjour Frédéric.
Charles Villeneuve et bonjour. Gérard Carrérou.
Bonjour Frédéric.
Et au programme de cette émission, les mystères d'Elisabeth Borne, sa santé, sa vie privée, ses engagements politiques, tout est raconté dans un livre écrit par notre consoeur Bérangère Bonte, livre dont la Première Ministre demande le retrait de certains passages. La justice devra trancher en cas de réédition. La Première Ministre qui a sans doute aussi avalé une grosse couleuvre en début de semaine avec la loi immigration. Faute de majorité, elle souhaitait prendre le temps de la concertation, surtout après la séquence de la réforme des retraites. Mais la loi sera discutée plus tôt, sans doute, pour couper l'herbe sous le pied des LR et de leurs contre-propositions. Pendant ce temps, Laurent Wauquiez sort du bois et annonce ses ambitions présidentielles. Longue interview dans Le Point cette semaine. Peut-il être l'homme du rassemblement à droite? Nous poserons la question à nos grandes voix. Le maire de Saint-Brévin lui jette l'éponge. Le déménagement d'un centre d'accueil pour réfugiés lui vaut depuis des mois des attaques de l'extrême droite, manifestations, menaces. En avril, son domicile a été incendié. Dénonçant le manque de soutien de l'État, Yannick Morez plaque tout après 32 ans de vie dans la commune. Il déménage et ferme son cabinet médical. Et son cas n'est pas isolé. La République protège-t-elle suffisamment nos élus? Les grandes voix nous diront ce qu'ils en pensent. Enfin, la Turquie vote ce dimanche. Le Monde a les yeux rivés sur la Turquie après 20 ans de règne. Les Turcs sont-ils prêts à tourner la page Erdogan? Pour la première fois, l'opposition est unie dans le pays. Un pays qui semble prêt à une nouvelle ère, mais à l'étranger et particulièrement en France. La diaspora reste attachée au vieux président. Vous avez le programme. Le début des grandes voix, c'est tout de suite. Excellente journée sur Europe 1. Les grandes voix, bonjour. On a appris donc jeudi l'intention de la Première Ministre d'attaquer les éditions de l'Archipel après la publication d'un livre écrit par notre consoeur Bérangère Bonte. Elle demande en cas de réédition, et c'est peut-être un peu surprenant, que la justice, en effet, puisse juger que certains passages doivent être retirés. Catherine Ney, c'est une bonne publicité pour le livre des Bérangère Bonte.
Oui, qui soulève beaucoup de mystères, parce que cette biographie qui est sortie le 4 mai, qui s'appelle La Secrète, par notre consoeur Bérangère Bonte, qui est une excellente journaliste et qui a fait cette biographie avec l'accord de Madame Borne, qu'elle a vu de longs entretiens. Elle lui a donné les noms de ses plus proches, qu'elle a pu interviewer, raconter. Bon, très bien. Et c'est un livre que la Première ministre a lu très vite pour assigner l'éditeur devant la justice le 24 mai. Vous voyez, le livre sort le 4 mai. Le 24 mai, c'est très rapide. Pourquoi Nanterre et pas la 17e chambre du palais de justice de Paris? C'est très bizarre. Et ce qu'elle lui reproche, c'est elle voudrait que soient effacés certains passages qui parlent de sa vie familiale, sa santé, son orientation sexuelle. Or, sur son orientation sexuelle, notre consoeur ne dit rien. Elle se lance simplement. C'est Madame Borne elle-même qui a mis sur la table des pistes en arrivant. Elle dit, elle est interviewée par Têtu. Si elle est interviewée par le magazine gay Têtu, en général les ministres font leur coming out, c'est peut-être parce qu'il y a des rumeurs. Elle dit non, je ne suis pas homosexuelle. Si je l'étais, je le dirais. Bon, très bien. Très peu de temps après, elle fait un tweet, Première ministre, au soutien de la communauté LGBT. Donc, ça entretient peut-être une rumeur. On se dit, tiens, c'est bizarre, mais c'est ça. Bon. Pour finir, poser dans Match avec un compagnon, elle présente un compagnon. Bon, très bien. Et ma consoeur qui fait ce livre veut savoir qui est ce compagnon dont elle ne sait pas le nom. Elle arrive à le retrouver sur Internet, et elle s'aperçoit que cet homme, qui est un énarque, qui est un ami de la Première ministre, qui ont-ils eu jadis une amitié amoureuse. En tous les cas, il ne peut pas être le compagnon de la Première ministre puisqu'il est paxé avec une autre femme depuis 2 ans ou 3 ans. Donc, pourquoi la Première ministre a-t-elle eu besoin d'afficher un compagnon qu'elle n'a pas, avec qui elle ne s'est jamais montrée d'ailleurs dans les dîners officiels, et ni auprès de ses amis? Pourquoi il y a ce petit mensonge? Et c'est ça qui est bizarre.
Gérard Carrérou, étonné par cette réaction de la Première ministre.
Je suis étonné, je ne m'attendais pas. Je m'attendais effectivement à lire, avec intérêt, la biographie de Bérangère Bonte, parce qu'on la connaît bien ici.
Et que c'est un très bon livre, hein, oui. Et intéressant.
Non, mais je dis, c'est quelqu'un de sérieux. C'est un très bon journaliste. Journaliste. Oui, enfin, c'est un journaliste au sens générique du terme. Et on a même travaillé ici avec son père. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler avec son père.
C'est une biographie non autorisée, mais elle l'a rencontrée à plusieurs reprises, la Première ministre.
Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, moi, ce qui m'intéresse le plus, je vais vous dire la vérité, dans Mme Borne, c'est le parcours politique de Mme Borne, le logiciel socialo-socialiste qui n'a cessé de marquer sa vie tout au long, etc., et qui a marqué un certain nombre de décisions et qui, aujourd'hui, effectivement, joue encore un rôle. Notamment sur le nucléaire, mais sur d'autres sujets. Donc, pas la vie éventuellement personnelle. Moi, je suis de ceux qui pensent que la vie personnelle et sexuelle de chacun d'entre nous appartient à la personne en question. Et chacun a le droit, comme certains le font à plaisir avec les réseaux sociaux ou autres, de s'exhiber et d'exhiber sa vie personnelle et sexuelle, où chacun a le droit, et c'est plutôt mon sentiment à moi, de la garder d'une manière effectivement, sinon cachée, il n'y a pas raison de se cacher, mais discrète et en dehors du champ politique. Donc ce qui nous amène à en parler ce matin dans une émission quand même politique, c'est qu'on ne peut pas facilement mélanger les genres. Or, et Catherine vient très bien de raconter l'histoire, Madame Borne n'aurait pas parlé de sa vie personnelle.
Oui, puisque c'est elle qui met sur la table. Hein.
Voilà. Exactement. Si elle n'en avait pas parlé,
plusieurs fois.
Voilà. Je ne crois pas que ça serait aujourd'hui un sujet qu'on traiterait dans une émission comme la nôtre. Mais Alors c'est là qu'on se dit, ça va pas, qu'est-ce qu'elle a voulu ? Elle a voulu ruser avec la vérité. Ou elle a voulu mentir, tout simplement.
Elle a menti.
C'est-à-dire que peut-être... Moi, je ne savais pas, mais peut-être y avait-il des rumeurs qui couraient dans Paris sur le fait qu'elle avait pu, ou qu'elle était, ou que quoi que ce soit, lié à une forme d'homosexualité, et qu'elle a voulu, casser cette rumeur en s'inventant un compagnon, un homme, donc à partir de là, tout est normal.
Et, dans ce cas-là, on ne comprend pas, parce que plusieurs de ces ministres...
Mais dans ce cas-là, on ne va pas à Tétu, et Catherine, tout ça, je ne veux pas répéter ce qu'a dit Catherine, on ne va pas à Tétu, qui est le spécialiste des coming out.
C'est là qu'on va... Charles Villeneuve.
Non, mais c'est ça qui est incompréhensible, c'est qu'elle veut cacher, c'est-à-dire que à force de se cacher, elle révèle peut-être une évidence. Mais ce que ne dit pas notre consoeur, elle pose des questions. Et donc on se demande, mais qui peut la conseiller autour d'elle, sa communication ? En attendant, elle fait une pub formidable pour le livre, tout le monde a envie de le lire.
Charles Villeneuve.
Oui, là, dans cette affaire, tout a été dit là, par mes deux confrères, par Catherine, qui a très bien positionné l'affaire, qui en réalité vient d'une initiative de la Première ministre, et Gérard, qui lui a ouvert un peu le rayon d'action de cette affaire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Tout va dépendre de ce qui va être débattu au moment de l'audience. La justice fait alors ce qu'on appelle une balance des intérêts entre ceux de la personne, la Première ministre, et les intérêts du public à recevoir l'information. Et la notion d'intérêt général peut être une notion arbitraire, mais c'est soumis à la subjectivité du juge. Mais il faut que vous sachiez que depuis l'affaire du scooter de François Hollande, qui a été surpris par un paparazzi lorsqu'il est allé rejoindre sa maîtresse à proximité de l'Élysée. D'ailleurs, il n'avait pas beaucoup à faire de trajet, je veux dire. Chaque fois qu'un événement de la vie privée influe sur l'exercice de la fonction publique, alors en principe cet événement n'est plus secret. C'est une jurisprudence maintenant, à partir de cette affaire. Jusqu'à présent, la presse, depuis 1936, depuis l'affaire Saint-Lingros, qui était le ministre de l'Intérieur de Léon Blum, et qui s'était suicidé, la presse ne parlait pas de la vie privée d'un personnage public. Ça a changé à partir de l'affaire du scooter de François Hollande.
Oui, mais François Hollande n'a pas porté plainte, n'a pas saisi la justice parce qu'il y avait eu ces révélations. Et là, pour le juge, ce qui va être très intéressant, c'est se percutent deux droits fondamentaux qui sont d'égale valeur. À la fois le droit à ce que sa vie privée reste secrète, ça, bon, c'est un droit, et le droit d'informer pour les journalistes quand on vous a mis sur une piste, ce qui est le cas de notre consoeur Bérangère Bonte. Donc ça va être très intéressant de voir comment la justice va trancher.
Si la justice tranche, puisque elle tranchera en cas de réédition, il faut bien le
c'est
préciser.
Ça, c'est ça d'ailleurs qui est extravagant dans cette affaire.
D'abord c'est étonnant parce que où on demande la censure d'un livre, de quelques passages d'un livre,
mais tout de suite
pour que effectivement ça évite de se répandre dans le public. Mais là, avec l'affaire telle qu'elle se développe aujourd'hui, on n'a qu'une envie, je veux dire, si on est un citoyen lambda, on a envie d'aller, ah tiens, on passe devant la librairie et on va prendre le bouquin, tant mieux pour Bérangère, on va prendre son bouquin.
Le livre est intéressant. Bon.
Donc elle donne une formidable publicité. Mais c'est pas ça que je veux dire. De toute façon, maintenant, à partir du moment où la bombe, si j'ose dire, la bombinette ou la bombe a explosé, tous les médias de la Terre vont se pencher pour aller plus loin. On va vouloir savoir qui est ce compagnon. Enfin, on le sait déjà, Catherine le sait. Tu as même donné son nom à l'antenne, si je me souviens bien.
Parce que c'est dans le livre.
Donc, on va vouloir en savoir plus sur cette relation particulière homme qui, lui, est déjà paxé avec une autre femme, etc. C'est une histoire qui va lui coller à la peau. Et je dirais, elle n'a pas besoin de ça.
Et on n'a pas fini d'en parler.
Cette première ministre qui n'a pas de majorité, qui a un mal de chien à pouvoir gouverner et faire passer des projets de loi parce qu'elle n'a pas de majorité, se trouve maintenant affublée d'une histoire qui va lui coller à la peau.
On n'en a pas fini avec ce livre. Et puis on va reparler d'Elisabeth Borne dans un instant puisqu'on va évoquer la loi sur l'immigration. Il est 10h17, vous écoutez Les Grandes Voix, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Frédéric Michel.
Retour des grandes voix, elle l'avait annoncé depuis l'Élysée, faute de majorité, la présentation du projet de loi immigration devait être reportée à l'automne, sauf que la droite a déclaré son intention de présenter sa propre proposition de loi sur le sujet, résultat des courses. Elisabeth Borne, toujours elle, mange une fois de plus son chapeau et annonce que le projet sera finalement présenté en juillet pour que les mesures soient examinées au Parlement à l'automne. Une couleuvre de plus à avaler, Charles Villeneuve.
Enfin, moi, je trouve que ça montre surtout que l'exécutif a égaré sa boussole. Ça montre qu'il n'y a pas de cap. Ça montre qu'il n'y a pas d'idée structurante. Appelez ça comme vous voulez. Mais en matière de code de la route, on appellerait ça des têtes à queue. Bon. Mais ce qui est vrai de la loi sur l'immigration, on l'est aussi de la politique européenne. Par exemple, on passe du fédéralisme le plus fervent européen à l'exaltation de la souveraineté nationale, de la compréhension de la manif pour tous à l'encouragement des LGBT. Sur la laïcité dans l'enseignement, on passe de Blanquer à Pape Diane, sans arrêt. Bon, c'est tout. Moi, je trouve que couleuvre à avaler, il faut avoir, quand on est Premier ministre, de toute façon, auprès du chef de l'État, d'Emmanuel Macron aujourd'hui, il faut avoir un tube digestif extrêmement solide et du souffle pour avaler les couleuvres.
Mais elle avale rien du tout, c'est de la com. C'est-à-dire, on dit, mais l'immigration, c'est un sujet qui est essentiel pour les Français qui attendent une loi forte, donc il faut leur donner une réponse. Et la réponse, on leur dit, ça sera présenté en Conseil des ministres. Bon, mais ça sera toujours voté à l'automne. Hein. Alors, avant le budget, après le budget, ça, on ne le sait toujours pas. Mais les problèmes ne sont pas résolus puisque c'est une loi qui est en même temps, qui est à la fois présentée par le ministre Dussopt et par Gérald Darmanin. Et on voit bien que tout ce qui est la version Dussopt, l'aile gauche de la Macronie veut bien le voter, mais elle ne veut pas de ce qu'ils aient voté par Darmanin. Et les LR, c'est pour ça qu'ils veulent présenter une loi. Ils veulent voter tout ce qui est Darmanin, mais pas Dussopt. Donc on est absolument au même moment et que rien n'est résolu.
Oui, mais n'était-ce pas aussi l'objectif de ce contre-projet ?
Non, mais ça s'appelle un parcours chaotique.
Je n'ai pas voulu t'agresser.
Je ne sais pas si c'est chaotique. En tout cas, c'est évidemment chaotique pour les gens de voir sans arrêt up and down, on y va, on n'y va pas, on n'y va plus. Bon. C'est un signe révélateur de ce que nous avons dit ici souvent depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que nous disons que ces problèmes qui sont considérés comme des problèmes essentiels par une majorité de Français, je mets là-dedans l'autorité de l'État, l'immigration, etc., ce sont des sujets que Macron, le président de la République, ne souhaite pas aborder, traiter de fond. Il a une dualité Mais interne voilà. sur oui. ces sujets. Oui. Il est un côté libéral, laissez-faire à l'anglo-saxonne, et un côté sous la pression à feu des événements, il faut quand même agir, d'où le discours sur le séparatisme, etc. Mais en réalité...
Il a deux mains avec voilà. des alliances à chaque voilà. à chaque
auriculaire. Il veut tenir l'omelette par les deux bouts. Or, le peuple le voit, tous les sondages l'ont montré depuis des années. 75% des Français disent simplement il y a trop d'immigration qui arrive en même temps chaque année.
82%.
Autour de 82% des Français disent ça au dernier sondage. 500 000 par an, vous vous rendez compte, 500 000 par an en 10 ans, c'est 5 millions. C'est 10% presque de notre population. Donc, le peuple le fait savoir et le président de la République essaye de s'en sortir par on fait semblant de, d'un côté, on va donner davantage de visa, pour, enfin pas de visa, mais de permis de travail pour ceux qui sont déjà là pour les régulariser, ce dont ne veut pas le peuple. Et on va en même temps prendre quelques mesures pour renvoyer dans leur foyer ceux qui...
Mais parce que, j'ai raison de le rappeler, Gérard, il s'accommode du communautarisme à l'anglo-saxonne. C'est ça la réalité.
Est-ce que le gouvernement n'a pas été piégé là aussi par ce contre-projet des LR, Catherine Ney?
Oui, enfin, les LR disent au moins ce qu'ils veulent, eux. Voilà. Et longtemps, le ministre, le président de la République, encourageait Gérald Darmanin de bien s'entendre avec le Sénat, où Jean-Noël Buffet et d'autres sont des grands spécialistes de l'immigration et font d'ailleurs voter des projets sans arrêt. On sait ce qu'ils veulent. Donc les LR se rallient à ce projet-là et dit voilà ce que nous voulons. Mais ce n'est pas tout à fait ce que veulent une partie de la Macronie. Voilà. Et on en est toujours là, quoi.
Mais il y a en plus...
On répond, on dit on s'en occupe, on vous présente une loi en juillet comme si le problème était résolu. Et
mais il y a en plus un soubassement politique évident à cette histoire, c'est que, quoi qu'on dise, on est quand même à 4 ans d'une présidentielle où le président de la République sortant ne pourra plus se représenter, où la bagarre a commencé pour savoir qui serait le candidat de la droite ou des droites, et que Darmanin, lui, est potentiellement un candidat à ce rôle, et que lui a intérêt à se mettre sur une ligne un peu dure, un peu ferme, un peu LR, si vous voulez, pour simplifier, tandis que une partie de la majorité, notamment derrière Mme Borne, je disais tout à l'heure le logiciel socialiste de Mme Borne, fait qu'elle et 50 députés ne veulent pas effectivement aller dans ce sens.
Dans le livre, il est raconté, ça en éblouissement pour Lionel Jospin.
Voilà. Charles Villeneuve.
Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans la proposition de loi qui est préparée aussi bien, comme viennent de le rappeler mes confrères, chez Darmanin et chez Dussopt, c'est que Darmanin aussi a laissé passer dans cette loi ce qu'on appelle l'article 3, c'est-à-dire la porte ouverte justement aux migrants. La porte ouverte, c'est ce que les Suédois ont, par précaution en réalité, croyant fermer cette porte, ont laissé faire et aujourd'hui ne savent plus comment faire. Ne savent plus comment, si vous voulez, faire repartir tout le tremplin de clandestins, notamment, qui ont profité de cet article 3. Or, les LR, les Républicains...
L'article 3, c'est qu'on donne du travail. Il faut expliquer ce que c'est, l'article 3.
Oui. Non, mais l'article 3, de toute façon, c'est même plus large que le travail, que les travaux spécialisés qui font partie, justement, de cet article 3. Ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Et Darmanin sait très bien, les Républicains le lui ont fait savoir personnellement, qu'ils ne veulent pas de cet article 3.
Il joue sa partition, hein, Catherine Ney, en vue peut-être des prochaines échéances, Gérald Darmanin. Là.
Oh, écoutez, les prochaines échéances, d'abord, elles sont loin. Hein. Elles sont loin pour tout le monde. Ça va vite passer, mais on n'en est pas là.
Merci Catherine. Dans un instant, le retour de vos grandes voix. Sachez aussi que Europe 1, c'est la radio du sport. Le sport en direct, c'est tous les soirs de 20h à 23h. Émission présentée par Lionel Rosso du vendredi au dimanche avec toute l'équipe des sports. Rendez-vous ce soir pour suivre en direct et en intégralité le match de Ligue 1 PSG-Ajaccio. Et demain, le match Marseille-Angers commenté par Jean-François Pérez et Stéphane Burgat.
Les grandes voix d'Europe 1, Frédéric Michel.
Retour avec nos grandes voix, 10h30 sur Europe 1, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou, Catherine Ney en notre compagnie. C'est officiel, Laurent Wauquiez affiche ses ambitions présidentielles. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a accordé une longue interview au Point. Il y dévoile son constat pour la France, qu'il estime en décadence. Mais finalement, tout ce qu'il convient de dire, c'est enfin, car à la vérité, c'était un secret de polichinelle. Hein, on le savait, Gérard Carrérou.
Oui, c'était comme vous dites, c'était un peu un secret de polichinelle. Mais il n'empêche que, quand même, on se demandait depuis quelque temps où il était passé. Pendant même tout l'épisode des retraites, des mois de retraite, on disait comment se fait-il que Wauquiez n'intervient pas ? Ben, on a compris. Il s'est mis un petit peu à l'abri pendant le côté chaud de la crise des retraites, ce qui lui permet maintenant de nous faire le « coucou, me revoilà, attention, je suis là ». Mais on ne l'avait pas oublié parce que Ciotti, par exemple, qui est quand même le chef des Républicains actuellement, à plusieurs reprises a marqué son sentiment en disant « c'est le meilleur candidat possible pour la prochaine élection présidentielle », etc. Donc on savait qu'il était là, mais il se dévoilait pas. Là,
C'est
un coming out, si j'ose dire, politique, après une longue absence. Et ce qui est intéressant, en général, il y a deux choses au moins qu'on peut retenir. En tout cas, moi, j'ai retenu deux choses. Une, effectivement, il ménage le président Macron et son bilan. Pour une raison évidente, il sait qu'on ne peut pas se faire élire la prochaine fois sans l'électorat, les 25% qui sont restés fidèles à Macron depuis 6 ans, et il faudra bien les récupérer. Et lui, en ménageant Macron, pense... Mais ça, c'est le côté classique.
Il ménage le président pour ménager les électeurs, c'est classique.
Mais il y a une chose, par contre, sur l'innovation que j'ai retenue, et moi, ça me paraît un excellent sujet, il a raison, c'est de s'engager sur cette lutte pour réhabiliter la politique, les hommes politiques, les décisions politiques contre ce qu'il appelle, et ce que beaucoup d'autres appellent, l'État profond. C'est-à-dire, en fait, des administrations qui, au fond, font les décisions à la place des politiques, et des tas d'organisations, de hauts conseils de ceci, d'autorités de cela, qui, finalement, se mettent à la place du ministre. Les ministres, ce sont des gens qui émanent du suffrage universel à travers l'élection, effectivement, de l'Assemblée ou du président.
Catherine, vous voulez réagir.
Donc je trouve que c'est une excellente idée qu'il développe de s'attaquer à cet État profond et à dire qu'il faut supprimer les hautes autorités dans tous les genres.
Catherine et Charles Villeneuve.
Oui, moi je trouve que c'est une interview à laquelle il se prépare parce que Le Point lui a demandé depuis l'été dernier, depuis l'automne, il y a travaillé. Et là, il s'est senti prêt pour le faire. Et moi je trouve, il faut la lire plume à la main, c'est une interview remarquable. Peut-être, si on lit, il y a Laurent Wauquiez, eh bien, Wauquiez, on se dit, là, c'est un leader pour la droite extraordinaire, parce qu'il répond à toutes les questions.
Il prend de l'épaisseur.
C'est une épaisseur formidable, et il peut s'appuyer sur une expérience. Il dit, moi, je me suis retiré, j'ai eu des échecs, et c'est vrai que sa vitrine, c'est la région. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit qu'il n'attaque pas Macron. Moi, je trouve qu'au fil des phrases, c'est un éreintement. Parce qu'il dit Jupiter. Jupiter, il n'a jamais été Jupiter. Il touche à tout, mais il ne touche à rien au fond. Il intervient sur le net. Et moi, je trouve que c'est un éreintement. Il dit, il ne nous a pas fait honte. Il n'a pas fait comme Hollande. Mais enfin bon. Et moi, au contraire, il parle de quelqu'un qui est déjà parti. Voilà, le problème avec Laurent Wauquiez, qui a Bac plus 18, comme dit Nicolas Sarkozy, et qui est formidable, c'est que Wauquiez, on s'aperçoit qu'il est de la race des leaders, qu'il en a le physique, qu'il en a l'attitude, mais on ne sait toujours pas qui est Laurent. Et il y a toujours, entre Wauquiez et Laurent, on ne sait pas qui est le personnage, qui lève des doutes, qui n'est pas aimé, qui a des attitudes qui peuvent choquer. Et donc, voilà, est-ce qu'il faut réunir les deux? Mais en tous les cas, c'est une interview exceptionnelle.
Charles Villeneuve.
Alors, moi, je partage assez cette opinion, mais sur un point, par rapport à Macron, que Catherine trouve qu'il était éreinté dans cette affaire, je serais plus nuancé. Parce qu'il rejoint Macron complètement, et Macron le rejoint, si vous voulez, sur quelque chose qui nous tient à cœur ici, d'ailleurs, autour de cette table. Depuis 6 ans, nous le répétons souvent, c'est l'Europe. C'est ce qu'il appelle les cours suprêmes. C'est-à-dire l'annulation, la disparition de tous ces organismes peuplés de technocrates qui n'ont aucune légitimité et qui dirigent sur le plan environnemental l'environnement et sur le plan de la construction notamment les décisions des députés, des politiques ou des sénateurs français. c'est-à-dire l'ARCOM, c'est-à-dire la CNIL, c'est-à-dire tous ces technocrates qui font du zèle, qui ne connaissent absolument pas les situations locales et qui vous imposent des règles qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Et il veut la suppression. Et Macron, d'ailleurs, depuis quelques jours, fait allusion justement à ces décisions-là. Jusqu'à présent, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais par rapport à la Première ministre, qu'on est passé de la ferveur de l'Europe à tout d'un coup, de toute façon, à la souveraineté nationale. Et c'est cette souveraineté nationale, il explique très bien, qu'elle tue justement le politique, le député, l'élu local, le maire, etc. Qui, lui, connaît sa région, sa ville, et sait ce qu'il faut plutôt pour sa ville.
On continue de parler de Laurent Wauquiez dans un instant. On marque une petite pause et on revient avec nos grandes voix sur Europe 1.
Europe 1. Frédéric Michel.
On évoquait Laurent Wauquiez qui sort du bois, Gérard Carrérou, qui sort du bois et qui donc s'expose. Hein. On le voit depuis quelques heures, quelques jours, les articles qui se multiplient, notamment sur, par exemple, sa politique culturelle.
Disons simplement, il n'est pas aimé. Par tout le monde, en tout cas. Ouais. Il a beaucoup de handicaps dans ce domaine, parce qu'on lui reproche c'est même son handicap principal, tu as raison Catherine, on lui on lui reproche en gros d'avoir, par exemple, commencé sa carrière avec Barrot, qui était un centriste, et d'arriver finalement
avec Barrot, c'est le comportement qu'il a eu avec lui, qui était vraiment...
Il a un handicap d'amour. Si j'ose dire, il n'est pas le candidat naturel de la droite, globalement. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'il a compris une chose très claire, lui, c'est qu'il pense que, et je crois qu'il a raison, la prochaine élection présidentielle se déroulera au deuxième tour entre deux candidats de droite. L'un ou l'une sera probablement Marine Le Pen, si l'on en juge par ce qui s'est passé depuis quelques années, les sondages, etc., une sorte de montée inexorable, et l'autre sera un candidat d'une droite intelligente qui s'assume comme telle, pas une droite molle ou qui zigzague un peu comme c'est le cas actuellement, je disais tout à l'heure, qui a des zones d'ombre, mais une droite qui s'assume, et je pense que ces propositions sont des propositions, effectivement, qui vont dans le bon sens.
Catherine, très rapidement.
Oui, d'ailleurs, ce qu'il dit intéressant sur Marine Le Pen, il dit, moi, je crois que Marine Le Pen, ce n'est pas en soi un problème pour les Français. Mais je pense que Marine Le Pen, au pouvoir, là, c'est un problème pour les Français. Non pas parce qu'elle est d'extrême droite, mais parce qu'elle est incompétente. Et ça correspond à quelque chose. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que Marine Le Pen, elle fait un sans-faute. Pourquoi ? Parce qu'elle dit rien. Alors, elle se sépare d'amis gênants, elle dit des choses. Mais moins elle en dit...
Mieux elle se porte.
Et ses dernières interventions, notamment au Congrès, où elle était debout en lisant des prompteurs à ses pieds, ça n'avait pas d'ampleur, ça n'avait pas de consistance. Elle n'est pas prête. Alors, elle est peut-être plus sympathique aux gens. Elle ne fait pas peur. Et c'est pour ça que je dis Darmanin qui dit l'extrême droite et qui la vise. Elle ne fait pas peur. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est l'extrême gauche. C'est les Black Blocs auxquels ils ne s'attaquent pas.
On ouvre un autre dossier, le maire de Saint-Brévin qui jette l'éponge menacé, dit-il, par l'extrême droite. Charles Villeneuve, il dénonce un non-soutien de l'État, notamment. C'est allé trop loin, cette affaire.
Ni les représentants de l'État, ni l'État lui-même n'a réagi lorsque sa maison, sa voiture... ont été incendiés. Et d'ailleurs,
il y a deux mois.
Signalons quand même que tous ceux qui se sont attaqués et sont les auteurs de ces méfaits risquent les assises. Dès que vous utilisez le feu, vous avez droit de toute façon à un renvoi d'assises. Bon, et si tant est évidemment...
Si on trouve les coupables.
Parce que quand même, Charles, je te complète d'un mot, c'est quand même pour rappeler que l'incendie de sa maison est intervenu il y a deux mois et demi, et demi même, et que pour l'instant, on ne sait pas En tout cas, la police n'a donné aucune indication, ou les gendarmes, sur éventuellement les auteurs. Alors on voit, et je le dis parce qu'on voit une espèce d'énorme tentative de récupération de la gauche, de l'extrême gauche, disant en gros, si c'est un attentat contre ce maire, puisque au cœur du débat, il y avait le problème de l'établissement d'un centre pour migrants, donc c'est clair, c'est signé extrême droite, etc.
Oui. Bon, il y a eu plusieurs manifestations de l'extrême droite dans la commune.
Mais ça, c'est de la récupération. Aussi bien d'ailleurs côté Darmanin qui interdit les manifestations, c'est pour l'instant dans cette affaire précise de Saint-Brévin-les-Pins, il n'y a aucune indication sur l'origine.
Mais ça traduit aussi un malaise de nombreux élus.
C'est ça le plus important.
Charles Vinot.
C'est ça le plus important. C'est qu'on est passé en 2021 1720 agressions contre les maires et les élus locaux, aujourd'hui à 2265. Et ça ne fait que progresser.
Et on disait à portée de claque, aujourd'hui c'est plus que des claques, c'est des armes.
De Ciotti à Nice qui a vu sa permanence brûlée, défoncée, à évidemment d'autres députés qui appartiennent aussi bien à la gauche qu'à la droite, notamment avec la loi sur les retraites, les attaques contre les hommes politiques, quels qu'ils soient, en tout cas ceux qui appartiennent soit au groupe Renaissance, soit qui appartiennent à la droite, sont attaqués, insultés en permanence. Et là-dessus, lorsqu'on voit aussi sur le plan administratif le poids des charges par rapport aux maires. Vous savez que plus de 1700 maires ont démissionné ces dernières années et ça va croissant. D'ailleurs, le président de l'Association des maires de France, Lisnard, qui est le maire de Cannes aussi, s'en plaint, a fait une interview et en fait, dans votre journal régional favori, je pense, Nice Matin, on l'a vu souvent apparaître sur ce plan-là. Et lorsque vous parlez avec des maires, il se trouve que moi, j'ai des maires dans ma famille, notamment mon jeune neveu. Bon, lui parle du poids de la suppression de la taxe d'habitation, des intérêts productifs, de ce que le gouvernement et le président de la République a pris comme n'a jamais été compensé sur le plan financier. Ce qui fait que les maires aujourd'hui, sur le plan de l'administration publique, ont de moins en moins de moyens. Ce qui exaspère justement les administrés. C'est ça aujourd'hui les charges contre les maires. Alors si on se met à brûler leur permanence, à les attaquer, à les insulter, on comprend que beaucoup démissionnent.
Catherine.
Oui, d'ailleurs, je trouve que la réponse de Mme Dominique Faure, qui est la secrétaire d'État aux collectivités locales, dit ben, on va lancer un observatoire des violences faites aux élus. Mais il y a longtemps que le CBIPOF et tout ça fait le compte-rendu des choses et que l'année...
Et ça monte crescendo.
Ça monte crescendo. Oui. Et entre janvier et octobre 2022, il y a eu 1835 procédures judiciaires pour atteinte à un élu ouvertes devant la justice.
C'est plus 32%.
Ouais. Voilà, plus
32%. Chaque fois qu'il y a un observatoire, ça veut dire qu'on ne veut rien faire. Comme l'observatoire des brèches contre la laïcité dans les lycées, etc.
Surtout,
un observatoire et à partir de là, il ne se passe plus rien. Et c'est la même chose qui est en train d'être fait contre
donc,
les élus.
Charles a cité déjà le nombre des maires qui ont démissionné, qui est énorme, mais on sait déjà que plus d'un maire sur deux ne veut pas se représenter en 2026, parce que trop, c'est trop. Ce sont les petits maires ne gagnent rien. Donc, ils ne peuvent pas avoir un double emploi parce qu'ils sont corvéables à merci. Tout devient un problème dans la ville. Un chien écrasé, une tuile qui s'en va d'un toit. On les appelle la nuit, le jour. C'est un apostolat dont il est avec des gens qui sont de plus en plus irascibles, qui ne supportent rien, qui ne supportent pas et qui sont des individualistes avec dans les villages. Et ça s'est accentué avec le Covid. Des gens qui s'irritent les uns les autres. Et donc, c'est devenu quelque chose. C'est un apostolat dont les gens ne veulent plus.
Vous écoutez Europe 1, il est 10h46, nous sommes en compagnie de nos grandes voix et dans un instant on ouvre un dossier sur la Turquie qui vote ce dimanche, élection présidentielle en Turquie.
Les grandes voix d'Europe 1, Frédéric Michel.
Les Turcs votent ce dimanche pour élire leur président, une élection qui n'a jamais semblé aussi incertaine. Erdogan doit faire face à une opposition unie et un pays encore traumatisé par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 50 000 morts. Ce sont les chiffres officiels, mais ils sont largement plus importants. Le régime autocratique d'Erdogan est-il sur le point de tomber? En tout cas, cette élection est scrutée, Charles Villeneuve, par le monde entier.
Oui, parce que la Turquie est une puissance au carrefour de plusieurs mondes. Le monde européen, arabe, et elle est frontalière de l'Iran. Et elle a une influence réelle sur le monde turcophone de toute l'Asie centrale. mais surtout, elle est stratégiquement, politiquement, militairement clé sur la mer Noire. Or, l'intérêt des Turcs de veiller à l'équilibre en mer Noire, de la Russie et de l'Ukraine, tient au contrôle des détroits du Bosphore et des Dardanelles. Vous savez qu'au titre de la Convention de Montreux en 1936, c'est elle qui ouvre ou qui ferme les détroits de l'accès. Elle a beau rire, c'est ultra important. C'est elle qui ferme ou qui ouvre. Oui, et elle est omnipotente sur ce plan-là. Mais Erdogan, justement, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, toutes les chancelleries, c'est ça que vous me demandiez, observe justement cette élection. Alors, pour la première fois, les sondages disent qu'il est en danger, qu'il peut être battu. Mais s'il est battu, et on le saura quasiment déjà demain soir,
dans la nuit,
il ne fera pas 50%. S'il fait 50%, il passe, bien sûr. Mais il a en face de lui un homme qui a fait finalement l'union de toute l'opposition et surtout qui a la faveur des 6 millions de jeunes turcs qui veulent se débarrasser d'Erdogan et de la minorité importante kurde qui évidemment a toujours été mise sous clé quasiment par Erdogan. Et donc il est très important qu'Erdogan soit battu pour tous ceux qui ont un peu de sympathie pour la démocratie parce que le nombre de prisons, si vous voulez, peuplées des opposants politiques à Erdogan est considérable.
Alors ce serait déjà une surprise hein, puisque un second tour est rarement organisé pour une élection présidentielle en Turquie.
Déjà s'il est en balotage et s'il y a un deuxième tour. Moi ce que je veux juste renforcer, c'est ce qu'a dit Charles sur la vision géopolitique. Je crois que depuis longtemps, l'Empire ottoman, puisque c'est en fait la Turquie, c'est le successeur de l'Empire ottoman.
Oui, Erdogan rêve d'empire.
Jamais ce pays n'a été aussi, alors je ne dis pas sur le plan intérieur, là, mais sur le plan purement extérieur. Géopolitique, si vous voulez, il a effectivement une palette extraordinaire. Un, il est depuis à peu près 2016, maintenant le assez proche de Poutine sur un certain nombre
de dossiers,
pas surtout, mais sur un certain nombre de dossiers. Et si quelqu'un va jouer un rôle à un moment donné, peut-être dans les perspectives de paix entre l'Ukraine, etc.
C'est la Turquie.
Premier point de force. Deuxième point, on oublie un peu qu'il est quand même dans l'OTAN. Il est dans l'OTAN, il est même en situation de faire des chantages et par exemple actuellement de bloquer l'histoire de la Grèce, l'entrée de la Grèce, simplement parce qu'il est contre. Deuxième point de force. Troisième point de force, il est le maître des flux de migrants vers notre Europe. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'immigration, de ce flux ininterrompu au rythme élevé, de haute intensité. S'il n'y a pas le verrou Erdogan qui empêche 3,5 millions au moins de gens qui sont prêts à partir, à gicler,
de se réfugier, qui sont parqués dans le sud de la Turquie.
C'est l'accord qu'il a signé avec Mme Merkel, pour lequel l'Europe a payé 6,5 milliards et continue de payer. On paye cet accord pour éviter effectivement les... Donc on a cet homme. Alors, et tout ça pour vous dire que je ne sais pas s'il sera réélu ou pas, mais j'ai bien peur qu'il ne soit réélu.
Oui. Et en plus, il a pour lui toute la diaspora turque qui est en Europe et qui voit en lui, qui est fier d'avoir un leader qui a acquis ce rôle et qui a fait monter le rôle de la Turquie, ce qu'elle n'était pas il y a 20 ans.
Oui, s'il y a une unité dans le pays, c'est de l'opposition à l'extérieur.
Voilà, à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a un gros malaise avec une inflation galopante, des gens qui ne s'en sortent plus, la privation de liberté et puis quand même le choc du dernier tremblement de terre où on dit qu'il y a 50 000 morts, mais en fait c'est beaucoup plus, c'est autour de 250 000 et les gens sont tristes, malheureux.
Il y a 250 000 disparus.
Disparus. Donc là, il y a quand même... Et les jeunes vont voter pour la première fois, que vont faire les jeunes? Bon, et si
les sondages disent
plutôt contre. Et puis il y a quand même
contre.
Une question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'il a la santé pour continuer?
Parce 69 ans, un peu plus jeune que son opposant.
Mais
c'est vrai qu'il est très marqué
mais
aussi.
Mais il a eu deux opérations des intestins dans les dernières années et là, il a eu des malaises. Alors c'est vrai qu'il faut tenir une campagne, aller partout. Mais là, et on le voit, il est physiquement affaibli.
Charles Villeneuve.
La question qu'on se pose à l'intérieur et à l'extérieur de la Turquie, c'est que s'il est battu, partira-t-il?
Oui, c'est la grande question. Que se passera-t-il dimanche ou dans
quelques jours? Il ne faut pas oublier que l'armée turque, forte de 600 000 hommes, l'armée française c'est 235 000 hommes, Et derrière, justement, le Gauleiter, j'allais dire,
turc. Oui, en état. Mais
elle a déjà fait des putschs, la fameuse armée en question. Oui. Et n'oublions pas que le parti, il s'appelle le AKP. L'AKP revendique, je ne sais pas s'il triche un peu, mais revendique 11 millions de membres. Mmh. Si vous voulez, ce n'est pas un petit parti.
C'est
hein.
un parti de frères musulmans.
Catherine
faut pas l'oublier.
Le disait tout à l'heure, en Europe, notamment en Allemagne, où il y a la plus forte communauté turque, mais aussi en France, on vote plutôt Erdogan. Est-ce que ça doit être inquiétant pour nous ?
Ils ont voté à 60, plus de 60%.
Bien sûr.
Les Turcs de France et les Turcs d'Allemagne, à plus de 60% ont voté Erdogan.
Il ne faut pas oublier qu'il y a une organisation paramilitaire au cœur des communautés turques occidentales et européennes. Ça s'appelle les Lougris.
Les Lougris, oui.
Et ces Lougris sont extrêmement actifs et violents.
Et c'est un peuple très politisé. Je veux dire, pour lire, alors, je ne lis pas le turc, mais pour m'être rendu quelques fois en Turquie, la presse turque, c'est 30 pages de politique dans chaque quotidien. C'est un peuple très politisé et qui aussi manifeste régulièrement, on le voit en Allemagne, et souvent lorsque Erdogan a donné l'ordre de manifester.
Et qui tient les mosquées en France aussi, la Turquie. 17,
une partie.
Un pouvoir très fort, vous le disiez, Charles Villeneuve. C'est stratégique, la Turquie. Oui. Et il y a cette volonté, comme pour
mais
Vladimir Poutine, de créer un peu l'Empire ottoman.
Oui,
pour
non, mais ça, touche, ça touche à beaucoup de monde, y compris à l'Iran.
Regardez la carte. Ceux qui nous ont écoutés, ils n'ont qu'à ouvrir un planisphère. Regardez la carte. Et on voit que la Turquie, elle est effectivement au confluent, depuis toujours d'ailleurs, mais au confluent de l'Orient et de l'Occident. Et à partir du moment où il a joué ce rôle, il s'est placé en pierre angulaire au milieu de notre...
Regardez en Asie centrale, dont les langues, l'idiome des langues, touche au turc.
On en reparlera la semaine prochaine. Oui, ce sera Pierre de Villeneuve qui sera autour de la table avec vous, les grandes voix. Merci beaucoup. Il est 10h57 sur Europe 1. Merci à Catherine Ney, à Charles Villeneuve et Gérard Kérourou. On vous retrouve la semaine prochaine avec Michel Cotta, qu'on embrasse très fort et à qui on souhaite un bon rétablissement. 10h57 sur Europe 1. Dans un instant, la table des bons vivants avec Laurent Mariotte et toute son équipe. Bonjour Laurent.
Bonjour Frédéric et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on fait le tour de la pizza. On va vous donner des astuces pour la réussir à la maison, comme si vous étiez à Naples. Et puis Marie Drucker nous rejoint juste avant midi pour partager un joli plat du jour autour des asperges vertes. A tout de suite.
Allez, restez avec nous. Allez, c'est alléchant le programme. Laurent Mariotte, à tout à l'heure. Dans un instant, les infos avec Clément Barguin. Vous êtes sur Europe 1.